Europe 1. Et que Paris m'a accueilli. L'enfant perdu, comme les petits enfants dans la rue souvent. Et là aujourd'hui, de penser que j'ai cette grande honneur, ça m'est. J'ai tas de choses à dire et ça m'est très difficile à dire. Parce que je suis si heureuse que Clément ne vient pas. Mais j'espère que vous sentez mon cœur, s'il vous plaît. Merci. Merci bien.
En 2021, Joséphine Baker entre au Panthéon pour ses actions dans le contre-espionnage et la résistance pendant l'occupation. Rien ne prédestinait cette star du musical noir américaine à risquer sa vie pour son pays d'adoption.
Elle entre ici avec tous ceux qui, comme elle, ont vu dans la France une terre à vivre, qui l'ont aimée et l'aiment charnellement, qui l'ont vue trébucher, qui l'ont vue à terre et se sont battus pour la relever.
Mais alors que l'Amérique l'a rejetée plusieurs fois parce qu'elle était noire, la France lui a offert son amour, des amants et la nationalité française. Je vais vous raconter dans le second épisode que je lui consacre en quoi la patrie lui est reconnaissante. Je suis Virginie Giraud et je vous emmène avec moi au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Joséphine Baker, de la Revue Nègre au Panthéon.
C'est plus qu'une revue, c'est une histoire de ma vie.
Épisode 2, l'heure des combats. Le mariage de Joséphine avec Jean Lion n'a pas inauguré un long moment de bonheur. Une fausse couche pousse le couple à la rupture, alors que le tocsin résonne partout en France. Nous sommes en 1939. La Seconde Guerre mondiale commence suite à l'envahissement de la Pologne par l'Allemagne nazie. Au début, c'est la drôle de guerre. Il ne se passe pas grand-chose. Des soldats sont envoyés sur la ligne Maginot, une série de fortifications au nord-est de la France réputée imprenable. Mais il n'y a pas d'attaque. Du moins, pas tout de suite. En juin 1940, pendant la bataille de France qui précède le triste épisode de la débâcle, le repli des troupes françaises et la percée des forces allemandes, Joséphine Baker et Maurice Chevalier, le chanteur le plus célèbre de son temps, vont chanter sur le front pour remonter le moral des troupes. Je fais une petite incise. Si vous avez plus ou moins mon âge, ou si vous êtes plus jeune, Maurice Chevalier ne vous dit peut-être pas grand-chose. Si je vous dis que c'est lui qui, avec son canotier, a inspiré le personnage de Lumière dans La Belle et la Bête de Disney, je suis certaine que je vais éclairer votre chandelle. Bref, Baker et Chevalier sont loin de s'apprécier parce que Maurice Chevalier se considère comme une star mondiale. Lui, dans les années 1930, il est une vedette à Hollywood, alors que Joséphine est rejetée dans son propre pays à cause du racisme. Alors au moment de monter le spectacle pour les soldats, Chevalier fait son caprice. Il passera en seconde partie. Il est hors de question qu'il chauffe la salle pour Madame Baker. Puisque c'est comme ça, Joséphine, bonne joueuse, passe sur scène la première. Avec sa joie de vivre et son sourire, elle enflamme la salle, embrasse les soldats sur les joues et les fait rire. Elle est sans cesse rappelée par les militaires qui ne veulent qu'elle. Résultat, le tour de chant de Chevalier commence très en retard et ne dure pas longtemps. On n'a que ce qu'on mérite dans la vie. Mais pour Joséphine, ça ne suffit pas. Elle veut en faire plus pour son pays d'adoption. Elle profite des réseaux des artistes parisiens pour rencontrer un homme qui se fait appeler Jacques Aptet. Cet officier travaille pour le renseignement militaire. Quand on lui parle de l'envie de la star de la Revue Nègre de servir son pays, Aptet soupire. On a déjà vu ce que ça donnait dans le renseignement, Matahari, cet artiste de music-hall de la Première Guerre mondiale qui aurait été un vague agent double pour l'Allemagne et la France. Pas question de recommencer. Mais Joséphine insiste et finit par convaincre Aptet. La meneuse de revue est reçue par le gratin mondain européen et quand elle passe la douane, qui fouille Madame Baker? Personne. On est trop occupé à lui demander des autographes. La première mission de Joséphine est simple. Elle consiste à discuter avec tout le monde pendant ses soirées mondaines. Vous ne vous rendez pas compte à quel point les hommes puissants aiment se raconter, surtout aux jolies femmes. Résultat, elle apprend beaucoup de choses sur les mouvements des troupes des forces de l'Axe, rien qu'en posant des questions naïves. Elle donne notamment aux Français des informations précises sur l'entrée en guerre de l'Italie. Là, Jacques Aptet est conquis. Il passe désormais à la vitesse supérieure en se faisant passer pour un membre de son staff, ce qui lui permet d'accompagner sa star et de l'aider à noter des informations à l'encre sympathique sur ses partitions et à planquer des microfilms dans sa lingerie. C'est aussi au début de la guerre que Joséphine fait l'acquisition du château des Milandes dans le Périgord. Sa situation est stratégique puisqu'il se trouve en zone libre, mais assez proche de la zone occupée. Les caves et les passages secrets du château permettent de cacher des armes pour les résistants. De toute manière, à partir de 1942-1943, toute la France est occupée. D'ailleurs, un jour, des soldats de la Wehrmacht se présentent au château. Ils sont à la recherche d'un terroriste nommé Monsieur Mallory. Joséphine Baker comprend tout de suite qu'il s'agit d'un de ses voisins résistants. Elle le connaît bien. Il est à l'instant même caché chez elle. Mais Joséphine est une artiste. Elle sait feindre. Elle force son accent anglais et fait semblant de ne rien comprendre. Ces messieurs de la Wehrmacht cherchent la mairie, c'est ça ? Oh bah ils la trouveront un peu plus loin. En bonne hôtesse, elle leur fait offrir un café, le château est fouillé à la va-vite et les militaires repartent sans avoir trouvé ni les armes, ni les résistants. Ce jour-là, Joséphine Baker a risqué sa vie. Et ce ne sera pas la dernière. Avec Jacques Aptay, elle part pour le Maghreb où plusieurs opérations militaires sont en cours pour le contrôle de la Méditerranée. En outre, il est facile de rejoindre le Portugal en partant du Maroc, et du Portugal, on peut rallier l'Angleterre où le général de Gaulle organise la France libre. Joséphine adore le général. On dit qu'elle n'y est pas pour rien dans le soutien qu'il a trouvé auprès des Américains. Mais là, au Maroc, Joséphine voit ses activités de contre-espionnage brutalement arrêtées. Une péritonite a failli la tuer. Elle est opérée et fait de sa chambre d'hôpital un véritable bureau du renseignement. En 1942, les Alliés débarquent à Casablanca. Joséphine veut aller chanter pour les troupes américaines, mais elle découvre avec horreur que les soldats noirs et les soldats blancs sont séparés dans les baraquements et qu'elle ne chantera que pour les blancs. Joséphine fait un scandale. À quoi ça sert de se battre contre les nazis si c'est pour cautionner la ségrégation ? Elle obtient finalement que les blancs et les noirs soient mélangés lors de son concert. C'est une première victoire sur le racisme aux États-Unis. Après ces événements, Aptay accompagne Joséphine Baker dans une tournée de gala à travers tout le Maghreb et le Proche-Orient. Il se déplace en jeep militaire. C'est un miracle s'ils n'ont pas sauté sur une bombe en parcourant plus de 3000 km sur des routes minées. Pendant cette tournée, Joséphine ne gagne rien. Elle reverse tous les fonds qu'elle lève à la France libre et au général de Gaulle, soit 10 millions de francs de l'époque. Elle est la bienfaitrice de la résistance. À la fin de la guerre, Joséphine Baker est devenue une héroïne. Elle est même incorporée dans l'armée de l'air et obtient le grade de sous-lieutenant et plusieurs décorations. Elle a maintenant une quarantaine d'années. Le music hall lui semble loin. Son nouveau rêve s'élabore autour des Milandes.
C'est si loin de mon arrivée à Paris. Quand j'étais très très jeune et que Paris m'a accueillie. Un enfant perdu. Comme les petits enfants dans la rue souvent. Vous appelez les moineaux de Paris.
En 1947, elle épouse le musicien Jo Bouillon. Leur premier projet est de fonder une famille. Comme Joséphine semble ne pas pouvoir avoir d'enfants, elle va en adopter. D'un commun accord avec Joe, elle en choisira 3 ou 4 à travers le monde pour montrer que la fraternité n'est pas un vain mot. Mais Joséphine finit par en adopter 12 venant de tous les continents et mettant son mari devant le fait accompli.
Tous les petits-enfants sont réunis autour de moi et je voudrais, Joséphine Baker, que vous me les présentiez. Voulez-vous ? Le premier, celui que vous avez dans votre bras gauche en ce moment, bras droit.
Jean-Claude.
Et Jean-Claude, il vient d'où, Jean-Claude ?
Paris.
Et à côté, eh bien, Luis. Luis qui est un petit noir, qui est colombien. Bonjour, Luis. Bonjour. Et puis à côté de lui, c'est un petit coréen, ça ?
Non, c'est
Jeannot.
Japonais.
Japonais. Bonjour, Jeannot. Et à côté de lui, eh bien, avec une petite blouse rose et une petite casquette blanche, c'est Moïse. Moïse qui est israélien. Bonjour Moïse. Ah voilà le plus gentil là, il a l'air. Ah c'est un petit coréen ça. Akio. Bonjour Akio. Et voilà le dernier là, un petit blond qui s'appelle Jari. D'où vient-il ?
Finlande.
De Finlande, bonjour. Puis-je vous demander leurs âges ?
Eh bien, de 18 mois à 4 ans.
Joséphine Baker, le soir, Est-ce que vous les endormez, ces petits-enfants?
Oh oui.
Et comment vous faites pour les endormir?
Généralement, ils sont tellement fatigués qu'ils n'attendent pas que je les berce. Mais je le fais tout de même.
Pouvez-vous faire une petite répétition, quoi que nous soyons en plein après-midi, comme ça?
Bien sûr. Eh bien, c'est avec Lalo qu'on commence toujours. Lalo?
Avec Lalo.
Bien. Bien, mon chéri. Lalo, mon chéri. Bonsoir, Lalo. Bonsoir, Lalo. Bonsoir. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir. Mon Dieu, je crois qu'il va dormir.
Le couple très aimant donne une éducation stricte à ses enfants. Ils vivent dans un château, mais ils dînent à la cuisine. Et le dimanche, Joséphine prépare des spaghettis. Les journalistes sont parfois conviés, car les Milland doivent aussi faire la promotion de cette famille arc-en-ciel comme un exemple parfait des valeurs universalistes.
Toute son éducation a été basée sur trois thèmes, l'amour, la compréhension et la tolérance. Elle s'occupait de nous tous et elle avait à cœur d'être aussi une vraie maman.
Joséphine investit dans le domaine de son château pour en faire une sorte de parc rempli d'attractions où viendront les gens du monde entier pour vivre de beaux moments ensemble, loin de tous les préjugés racistes. Belle utopie qui finit par donner un travail à 120 personnes et à ruiner Joséphine. Elle n'a rien d'une femme d'affaires, mais ses problèmes d'argent finissent par briser son couple avec Jo Bouillon. C'est le prélude d'une dégringolade. Joséphine doit recommencer à travailler pour payer ses créanciers. Elle fait de nouveaux voyages aux États-Unis où la cause des Noirs est toujours aussi désastreuse. Un soir, après un concert, elle se rend au Stork Club, le bar à la mode où se retrouve la fine fleur des stars et des politiques. Mais Joséphine comprend qu'aucun serveur ne la servira, parce qu'elle est noire. À chacun de ses voyages outre-Atlantique, Joséphine Baker essaiera de faire avancer la cause des Noirs. Elle fait même un discours aux côtés de Martin Luther King lors de la marche pour les droits civiques en 1963. En France aussi, elle fait figure d'icône engagée contre le racisme et l'antisémitisme, mais tout ça ne paye pas les créanciers. Désespérée, Joséphine lance un appel aux dons dans les médias. À sa grande surprise, la première à y répondre est une jolie blonde qu'elle ne connaît pas personnellement. C'est Brigitte Bardot. Grâce à cette marraine inespérée, les dons affluent. Mais ce n'est pas assez. En 1968, elle est obligée de vendre son château des Milland pour une bouchée de pain. Plusieurs acheteurs se sont entendus pour acheter le domaine par lot pour un dixième de sa valeur. Joséphine résiste en s'enfermant dans sa cuisine où elle a mis un lit et un stock de boîtes de conserve.
J'ai besoin de ces mères de famille, de femmes et de bonne volonté qui viennent ici au Milland me protéger car je n'ai pas le moindre idée de quitter. Je ne partirai pas de Milland.
Elle est malgré tout délogée de force par les nouveaux propriétaires. Dans un geste de désespoir théâtral, elle appelle un jeune journaliste de la région qui la photographie telle une mendiante emmitouflée dans une couverture à côté d'un chat vagabond sur les marches du château des Milland. Joséphine s'installe à Paris dans un petit appartement avec ses 12 enfants. C'est là qu'elle est invitée au gala de la Croix-Rouge à Monaco. La princesse Grace, ancienne star de Hollywood, lui offre immédiatement son amitié. Elle était dans la salle le jour où Joséphine était au Stork Club, victime du racisme américain. Elle avait tout vu. Depuis, elle l'admire. Alors elle l'aide à s'installer dans une villa sur les hauteurs de Monaco avec sa famille. Au début des années 1970, à plus de 65 ans, Joséphine multiplie les galas pour nourrir les siens. Elle est épuisée. Elle a des poches sous les yeux, mais sous les feux de la rampe, elle retrouve fugitivement sa jeunesse et le panache de la jeune danseuse qu'elle a été. Au printemps 1975, Jean-Claude Brialy l'invite à monter un nouveau spectacle à Bobino, une revue qui raconterait sa vie de ses débuts à Broadway jusqu'à son action dans la Résistance. Le pari semble fou, mais ça marche. Le soir de la première, le 24 mars 1975, le tout Paris et plus encore sont là. Brigitte Bardot, Sophia Loren, Mick Jagger, Grace Kelly, Charles de Gaulle, tout le monde est hystérique au moment du salut qui n'en finit plus. Joséphine Baker est éblouissante dans ses robes de meneuse de revue rehaussées de strass et de plumes. Elle rayonne sur la scène à 68 ans. Joséphine va jouer 14 fois ce spectacle qui célèbre ses 50 ans de carrière. Tous les soirs, elle rentre chez elle un peu plus fatiguée. Pourtant, sur scène, personne ne voit rien. Elle est transcendée. Mais le matin du 10 avril, la star de Bobino ne se réveille pas. Elle a fait une attaque cérébrale. Elle meurt 2 jours plus tard à l'hôpital. Ses funérailles à l'église de la Madeleine sont à la fois militaires et nationales. La France et Paris perdent leur amour. En 2021, Joséphine Baker fait son entrée au Panthéon, le temple républicain des grands hommes avec un H majuscule.
Une femme noire, une femme libre, une artiste, une résistante, 46 ans après sa mort, Joséphine Baker entre au Panthéon.
Oui, la patrie lui est reconnaissante pour avoir choisi la France, pour avoir fait partie de la résistance, pour avoir prôné les valeurs universalistes qui sont les nôtres. Liberté, égalité, fraternité. Bref, la France lui est reconnaissante pour tout ce qu'elle a été. Pour les Américains, elle était une femme noire. Pour nous, elle était avant tout une vraie Française.
Mon pays
Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Nathan Laporte et Marie Corpet. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours en podcast sur votre appli favorite et tous les week-ends sur Europe 1 à 15h. À très vite.